ondes poétiques. Au festival Voix Vive, à 7h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale que nous allons co-animer avec Perla Danan. Bonjour Perla.
Bonjour à tout le monde, bonjour au public, c'est toi.
Une coproduction donc entre Radio Aviva, FM+, Radio Languedoc, Radio Grille Ouverte, RPH et RPH Sud. Donc cette émission est spéciale puisqu'on se trouve en haut du parc Simone Veil dans la ville de Sète à l'occasion du 23e festival Voix Vive, le festival de poésie. Et ce sont les poètes de la Méditerranée qui sont mis à l'honneur cette année, un florilège d'une cinquantaine d'auteurs invités. Aujourd'hui, Perla, nous avons des invités de renom, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils ne sont pas tous présents physiquement, certains vols étant contraints par la situation sanitaire. En direct d'Israël avec nous, Ava Pinhas Cohen, bonjour.
Bonjour Ava.
Vous êtes auteur, poétesse, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages comme « Surtout la couleur »,« Poème d'Orphée » ou encore « Mon frère la soif » ou bien encore alors, je vais laisser Perla prononcer celui-ci parce qu'elle a un accent anglais incroyable. Bridging the Divide.
The Divide.
Ou en français, combler le fossé.
Combler le fossé.
Même en français, visiblement, j'ai du mal. Au niveau de votre cursus, vous avez étudié la littérature hébraïque et l'histoire de l'art à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous avez également enseigné la littérature et la maîtrise de l'écriture au lycée pendant de nombreuses années. Depuis 1990, vous êtes rédactrice en chef de Dimui, une revue de littérature, de critique et de culture juive. Vous êtes également critique de livres, traductrice et chroniqueuse pour le quotidien Ma'ariv. Et vous êtes accompagnée, nous sommes accompagnés de d'un comédien qui travaille avec vous, qui lira vos poèmes en français, Patrick Vendrin. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour les auditeurs, je voudrais préciser qu'Ava, retenue par la situation sanitaire en Israël, est avec nous en visioconférence, donc on a le plaisir de la voir et de l'écouter, mais à travers un écran.
Invité à nos côtés également aujourd'hui, Francis Combe. Bonjour Francis. Pas simple de vous présenter également, tant votre CV est chargé. Bonjour Francis.
Oui.
Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous avez fait également des études de langue orientale, le russe, le chinois et le hongrois, entre
exact.
Autres.
Exact.
Vous savez tout. Mais
j'ai mes
petites mains. Vous êtes bien entendu auteur. Vous avez notamment publié environ une quinzaine de recueils de poésie, comme par exemple Cause commune, La balade d'Aubervilliers, dialectique communication, aux éditions Le temps des cerises, ou plus récemment Le vin des hirondelles, aux éditions Le petit pavé. Vous avez également une activité de journaliste, de critique et d'essayiste, et vous tenez, avec Patricia Latour une chronique hebdomadaire dans L'Humanité. Bienvenue sur ce plateau.
Merci.
Je voudrais dire que vous avez aussi été élu pendant un temps.
Oui, c'est exact.
Alors, un élu qui fait de la poésie, c'est rare. Donc oui. Voilà, il faut le pointer.
Il faut le notifier en effet. Et enfin, troisième invité pour cette émission, Philippe Costaglioli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de la région, né à Alès. Vous avez vécu, vous vivez actuellement une grande partie de votre vie aux États-Unis, dans le Minnesota, si je ne me trompe pas. Vous enseignez le cinéma à St. Cloud State University, c'est bien ça ?
Oui.
Et en parallèle de votre travail de recherche sur la poésie contemporaine et le cinéma, vous vous consacrez à la traduction de poètes catalans, américains et français. Et fait non négligeable, vous écrivez également dans les trois langues. Un de vos ouvrages que l'on pourrait citer, « Ce qu'on vaut de poussière » aux éditions La Boucherie littéraire. Bienvenue à vous sur ce plateau.
Merci. Je voudrais simplement dire que je suis né à Alès par accident, que je n'ai pas vécu en France avant l'âge de 8 ans. J'ai vécu en Algérie, en Catalogne, et ensuite à l'âge de 8 ans, mes parents ont immigré en France. Voilà, Alès, c'était vraiment un accident.
C'est juste la naissance.
Oui.
Vous faites bien de
la
préciser.
La couveuse, en fait.
Votre maman s'est arrêtée le temps d'accoucher. Quoi. Alors, beaucoup de mouvements pour vous, bien sûr, pour Ava Pinhas Cohen aussi, mais je voudrais d'abord revenir un peu sur ce festival en quelques mots pour nos auditeurs. Alors, les voix émergentes de la poésie, de la Méditerranée, et puis un peu plus quelquefois, un peu plus loin, Sète devient capitale de l'expression poétique. L'expression poétique disponible à tous, accessible à tous. poésie, on dit que la poésie contemporaine est inaccessible. La beauté, le succès de ce festival semble dire l'inverse, puisque 71 000 festivaliers se sont réunis en 2019. C'est un très beau succès. Et merci à Maïté Vallès-Bled d'avoir maintenu le festival cette année, malgré la situation un petit peu complexe. Et je dois dire que ça nous fait du bien de parler littérature et de parler poésie surtout. Alors je voudrais aussi rendre hommage à Salah Setier, le célèbre poète libanais qui a l'honneur pour ce festival, qui est décédé le 19 mai. Il nous a quittés et lui disait que la beauté revient toujours, toujours, toujours. Donc c'est un petit clin d'œil à cette grande personnalité de la poésie. Vous savez que les 7 radios associatives se sont réunies et notre objectif, c'est bien sûr d'amener la poésie vers les gens qui n'ont pas l'habitude d'en entendre, d'en écouter et de l'apprécier. C'est rendre ces nouveaux publics, justement, fervents de poésie. Le festival a d'ailleurs aussi une initiative intéressante avec des poésies en langue des signes, ce qui permet aussi à des publics particuliers d'accéder à la poésie, à la beauté de la poésie. Donc, on va se laisser mener par le bout des mots, par nos 3 poètes et qui se côtoient sur ce plateau pour justement nous ravir. Alors, je vais commencer par Hava, justement, Pinhas-Cohen. Hava, bonjour, rebonjour. C'est très difficile de vous présenter. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez eu une dizaine de prix de renom. Bien sûr, on l'a vu, vous êtes sorti diplômé des plus grandes universités. Et puis, vous continuez à enseigner. Et je crois que vous aviez à cœur, et je crois que vous avez toujours à cœur, de faire un petit pont entre la littérature hébraïque, la tradition hébraïque et la modernité. Est-ce que je me trompe ?
Je n'ai pas écouté. Il y avait un problème.
Ah, ok. Est-ce que vous avez toujours à cœur de faire le lien entre la tradition hébraïque et les textes et la poésie moderne ? Vous voulez que je traduise ?
Est-ce que vous avez... Translate to English.
I know that you have in mind to have a bridge to build a bridge between the Jewish tradition and the modern poetry. Is it right?
Yes. Yes. No doubt. The Hebrew language is very antique. It's good for poets because I have many layers.
So let me translate.
Especially in.
Okay. La langue hébreu est une langue antique et elle est donc très appropriée pour faire percevoir exactement l'intérêt et la poésie, y compris la poésie antique.
So I can. My poetry is. A combination and it has all layers of the language.
Donc ma poésie
it can be very antique and it can be today.
Ma poésie actuellement fait appel à toutes les couches différentes du langage, à la fois antique et à la fois moderne.
And I believe that this possibility gives me opportunity to make to go with my poems to different places and to make it deep than just a simple language, everyday language. Although I have many poems that are everyday's language, but it has different quality.
Cet appel au langage justement ancien me donne la possibilité d'aller partout à travers le monde et de faire percevoir en profondeur certains textes. Toutefois, j'ai également des poèmes qui sont rédigés en langue tout à fait moderne et très actuelle. Okay, perhaps we can read a poem now. On pourrait lire un poème pour que nos justement notre public et les auditeurs puissent avoir une idée des sonorités. So if you, on va le lire en hébreu d'abord et en français ensuite, grâce à, de, justement à notre ami Patrick. So you can read it, lequel vous prenez, Patrick? Abraham, you can read Abraham in Hebrew, please.
Yes, of course. It's a good poem that can show this opportunity that I have to use all levels and layers of the language.
C'est un bon poème qui montre ma possibilité d'utiliser toutes les couches du langage, à la fois moderne et antique.
וישכם אברהם, הוא לא ידע שהלך בהרי ירושלים. השמש קרובה עדיין להרי מואב, והתרשים צבועים אדום זהב. ורוח קרה נחשון בין רוחות הסתיו, נוגעת בעצמותיי ומחבצת אורי. טמנתי באדמה שהשאירו הסלעים ביניהם, פקעות נרקיס וחלנית, זרעתי ירקות חורף ועלים למרק שלא כאבי, לא שתלתי עצי פרי ואורנים, לא רימון, לא תפוז ואף לא זית. בזהירות, בזהירות, זרעתי רק את אלה אשר ימהרו להשיב לי את אהבתי.
תודה רבה. Merci, Ava Pinchas Cohen. Je rappelle qu'elle lisait son poème Abraham en hébreu et nous allons en avoir l'interprétation en français.
Abraham se leva tôt. Il ne savait pas qu'il allait dans les collines de Jérusalem. Le soleil encore proche des collines de Moab et la terre rocailleuse rougissante et la première brise de l'automne s'infiltrent dans mes os et crispent ma peau. Entre les sillons des pierres, j'ai enfoui des oignons de narcisse et de coquelicot. J'ai semé des légumes d'hiver et des herbes aromatiques. Mais je n'ai pas planté comme mon père ni arbres fruitiers, ni pins, ni des grenadiers ou des orangers, ni même des oliviers. En toute douceur, les seuls que j'ai semés me rendront vite mon amour.
C'est très beau, effectivement. It's a very beautiful text. So, Ava Pinchas Cohen, if you can also read another type of text, more modern one, vous avez about a woman, because I think that you are very concerned by all this type of thematic at the modern time of equality and so on.
Isha, אתה תמיד תוכל לקנח עצמך ממני. ואני יכולה לשאת זרעך עוד שעות ארוכות, איש לא ידע בזאת בלכתי ברחוב. אתה יכול להיעלם מן האדמה במלחמה האחרונה, ואני יכולה לשאת ילדך עוד שנים ארוכות, בלעדיך. אולי זאת סיבת העקשנות שהשם השייך למשפחה ינסה אחריך. ומה אחריי? אחריי יישאר הזיכרון וכל המבטים שאספתי בחיי יהיו המחרוזת על צווארי ביתנו.
Alors pour ceux qui n'ont pas tout compris dans le texte, on va lire la, on va écouter la traduction.
Femme, tu pourras toujours te débarrasser de moi. Je porterai ta semence encore longtemps. Personne ne le saura quand je sortirai dans la rue. Même si tu disparais de la terre dans la dernière guerre, je porterai ton enfant encore de longues années sans toi. Peut-être est-ce la raison de la ténacité que le nom propre à la famille sera porté après toi. Le serait-il autrement? Après moi restera le souvenir. Et tous les regards que j'ai réunis dans ma vie formeront un collier au cou de notre fille.
Merci, Patrick Vendrin. Merci beaucoup, Patrick Vendrin. Thank you, Ava. Je voudrais dire que Ava Pinchas Cohen a un lien particulier avec l'Hérault et avec Montpellier, puisque les Amis du Levant, donc un éditeur local, vient de publier une traduction de ces textes qui est sorti ce matin. It's a scoop. It's available from this morning. C'est disponible depuis ce matin. Et donc, c'est sur ces traductions-là que nous avons le plaisir de découvrir la poésie de Hava Pinchas-Cohen. Alors, on avait sélectionné un troisième texte et pendant que, justement, Patrick Vendrin le prépare, c'est lequel ?
C'est sur le désir.
One text is about the desire. Ok.
Yeah, it's okay. Au rythme de l'amour.
Oui. Non, ma connaissance du désir.
Ma connaissance du désir.
My knowledge of desire.
Au rythme de l'amour.
Ok.
מה רצית לומר לי בלכתך? מה מאיר ההיעדר באפלת המרווח שהתקיים פה בינינו? איפה אני בכל זה? שאלת והקיטה על עדן החלון. שם נשאר פתוח ספר הימים שמונה את ריתמוס הנשימות העונות ללילות. נשימות הדוחפות תינוק לא מודע מתוכי אל ידיים שיקחו ויאמרו לו, אתה הוא אני, ויניפו הוא.
Alors, Hello. Patrick Vendrin, notre comédien, va justement lire la traduction.
Ma connaissance du désir. Ma connaissance du silence dérive du désir. Clos en mon corps comme une bulle qui ne peut être avalée ou rejetée. Ma voix résonne d'objets, de gestes et de jugements tissés dans ma maison. Ma connaissance de la poésie vient de ce qui est étouffé et se referme. Comme une bouche scellée par une fissure, réunie et sépare les lèvres, comme une langue aime et cherche à embrasser, à engendrer et à prononcer les noms du désir.
Merci Patrick, bravo. Alors Hava, est-ce que ces thèmes qui sont vraiment des thèmes intimes d'actualité, de développement justement personnel, de liberté de la femme, ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur actuellement? Are these subjects which are very modern and linked to the development of women and the freedom of women, is it something that you are willing to write on?
Well, I'm living my life as an independent woman and free, and I'm not asking myself. I just write about it.
Je vis ma vie comme
from the
une.
Inside.
Je vis ma vie de l'intérieur comme une femme libre. Je ne me pose pas de questions. Juste, je vis ma vie de l'intérieur comme une femme libre. C'est une belle déclaration, en tous les cas, qui transparaît dans vos textes. Alors, on va reprendre un texte, et avant, je voudrais vous demander, Hava, quel sujet vous avez envie de développer en poésie dans le futur? Which topics you would like to write on in the future?
In the future?
Yeah.
Love in my age. Love of my age.
Secret.
The secret of love of my age.
Alors, les secrets de l'amour à mon âge, nous dit. Alors, everybody is really very happy with what you are telling because it's a very specific subject. Tout le monde sourit à ce sujet parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. It's a real true subject.
Natural. It's natural subject.
C'est un sujet naturel.
It's a natural subject, and it wasn't very, I don't know, it was not trendy to speak about that.
Donc c'est un vrai sujet, et il n'est pas tendance d'en parler, ça n'est pas tendance, en général on n'en parle pas.
But I feel it's very interesting, it has its own secret. And I'm discovering.
Donc, je trouve que ce sujet est extrêmement intéressant. Il a énormément de secrets. Et en plus, je suis en train de le découvrir. So, it's a scoop, Hava. It's a scoop. We'll tell it to nobody. On dira à personne. Hein. It's just 7 different radios which are really giving this information. Hein. Donc, il y a 7 radios qui donnent ce scoop en ce moment, là, hein, sur le fait qu'elle est en train de découvrir l'amour à son âge. C'est magnifique. Thank you. Merci pour la franchise et le naturel avec lequel vous parlez de cela. Alors, un dernier poème. So the last poem that unfortunately the time is running, le temps passe vite. Le dernier poem is le rythme de l'amour, at the rhythm of love.
Okay, I did a mistake.
Yeah.
מה רצית לומר לי בלכתך ומה מאיר ההיעדר באפלת המרווח שהתקיים פה בינינו? שאלת והקית על עדן החלון. שם נשאר פתוח ספר הימים שמונה את הנשימות העונות ללילות, נשימות הדוחפות תינוק לא מודע מתוכי אל ידיים, שיקחו ויאמרו לו, אתה הוא אני, ויניפו הוא. ומפה לשם, בין עיר אחת לבין דרך היורד למדבר, בריתמוס האהבה.
Que voulais-tu me dire en partant? L'absence éclaire-t-elle l'obscurité qui nous sépare? Où suis-je dans tout cela? Ta main frappait le bord de la fenêtre où reste ouvert le livre des jours. Il compte le rythme des respirations où résonnent les nuits. Elles prennent de mes mains le nouveau-né inconscient en lui disant « Tu es moi » et le poussant ailleurs entre une ville et une route qui descend vers le désert au rythme de l'amour.
Thank you very much. C'est magnifique. Je voudrais dire que... Donc, ces poèmes ont été traduits pour les éditions du Levant, les Amis du Levant, par Michel et Carélial, je suppose. Et donc, à Montpellierin, et le livre peut être trouvé, découvert, là où il y a tous les kiosques des libraires à 7 pendant le festival. Thank you very much, Hava. It was a pleasure. Et je vous dis l'année prochaine, ici, à mot à 7, directement, amen. Physiquement.
Amen et amen.
Merci.
Merci. Allez, enchaîne.
On va enchaîner avec notre deuxième invité, Philippe Costaglioli. Oui. Donc un nom pas facile à porter ni à prononcer.
C'est très facile à porter, en ouais. fait. Depuis tout petit, tout le monde à l'école trébuche sur le nom, le massacre. Ça forge le caractère. Il faut répéter constamment. C'est pas Philippe, c'est Philippe, c'est pas Felipe, c'est Philippe. Et c'est pas Castiglioli, c'est Costaglioli.
Magnifique. Avec votre accent, c'est très joli à prononcer, en fait. Hein.
Donc vous écrivez en français, en espagnol et en anglais, c'est
alors,
bien ça?
Alors non, je n'écris pas en espagnol.
Vous n'écrivez pas en espagnol, en catalan?
Du tout, en catalan, absolument.
Pardonnez mon erreur.
Non, ce n'est pas grave, du tout.
Vous faites bien de me reprendre. Comment on s'y prend pour écrire de la poésie dans différentes langues, étant donné que chaque langue a ses expressions propres?
Bah, tout d'abord, lorsqu'on a 3 ans et qu'on commence à parler et qu'on est dans un milieu où, pour s'adresser à sa grand-mère, on parle en catalan, à son grand-père en catalan, pour s'adresser à son père qui vient de passer par là, c'est plus facile de parler en français. Et puis quand on sort dans la rue pour aller jouer avec les copains, on parle en catalan et parfois on parle en castillan aussi. Pour aller à l'école, on était obligé de parler en castillan. On est habitué à tisser, donc c'est un tissage tout à fait naturel. Et si moi je fais pas ce tissage quand j'écris, je me sens un peu perdu. Alors ça fait 30 ans que je vis aux États-Unis. Il y a une quinzaine d'années, j'ai estimé que je commençais à peu près à parler l'anglais correctement. Et j'avais commencé à traduire, mais à écrire. Et donc, c'est devenu un troisième film pour tisser tout ça. Ce qui est beau, l'avantage, c'est que cela permet de nombreuses voies, de nombreux fils de tissage. Ouais. On a énormément de possibilités syntactiques, sémantiques, sonores. Et tout ça... donne des possibilités multiples.
Vous empruntez à certaines langues pour les réadapter dans d'autres ?
Mais absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un système de langues, j'intègre des tactiques, des stratégies qui appartiennent à d'autres langues.
Ça s'appelle la plasticité cérébrale.
Je ne sais
pas.
Pour
les biologistes.
Peut-être. Du jonglage un peu, mais bon, c'est quelque chose auquel je suis habitué depuis tout petit. c'est quelque chose qui m'appartient.
Aux États-Unis, vous enseignez le cinéma et plus particulièrement les liens entre la poésie et le cinéma.
C'est ça.
Alors j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
Je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux et trop long. Alors, le cinéma comme aventure poétique, et je m'intéresse aussi aux poètes du cinéma. Alors, pour aller très vite, un cinéma non narratif, qui ne dépend pas d'une histoire racontée, mais qui dépend d'une atmosphère et de toutes les possibilités qu'offre le langage cinématographique. Encore une fois, un tissage entre l'image, le son, la captation de l'espace, une importance très forte donnée au silence, et où des images peut-être deviennent des images aussi oniriques, où la puissance du rêve est présente. Lorsque j'ai fait un travail qu'on dit universitaire sur la chose, j'ai exploré plusieurs catégories, plusieurs portes d'entrée au cinéma poétique, à travers plusieurs expériences qui me semblaient être porteuses d'aventures poétiques, comme par exemple la spiritualité, l'enfance, la sensualité, quelques points thématiques. Et essayer de tisser justement des liens entre tous ces points-là. Peut-être, je vais vous donner trois exemples de films poétiques. On peut commencer par peut-être le cinéma surréaliste, Un chien andalou par exemple, ou les films de Germaine Dulac. Les films de Maya Deren, une Ukrainienne qui est arrivée aux États-Unis à l'âge de 12 ans, qui est la mère du cinéma expérimental et du cinéma poétique, Meshes of the Afternoon, Atland. Je vous conseille d'aller voir ces films-là, de courts films, de vrais poèmes visuels. Et puis on peut continuer par un cinéma poétique du réel, Rossellini, Pasolini un peu plus tard, Pasolini et Cocteau étant deux poètes qui ont découvert les possibilités poétiques du cinéma.
Voilà, c'est un langage, finalement. C'est un langage. Alors, est-ce qu'il y a un poème qui donne un peu, un de vos poèmes qui donne cette atmosphère?
Peut-être pas, mais par contre, bon, nous sommes à la radio, pas à la télé, mais moi j'écris avec beaucoup d'images. Voilà.
Ah oui.
Mais j'espère que mes textes font images. Donc peut-être je pourrais vous en lire un.
Oui. Très bien.
Voilà. Je vais quand même, puisque vous posez la question, pour. Un poète américain qui est un poète visuel, c'est Terrence Malick. Les Moissons du Ciel, The Tree of Life, un film de guerre qui est un grand poème visuel, qui est peut-être une interprétation de « Je chante les hommes et les armes ». Voilà. N'hésitez pas à aller plonger dans la poésie visuelle.
C'est belle démarche.
On vous écoute pour une lecture d'un de vos poèmes.
Très bien.
Si vous le voulez bien.
Très bien. Je peux peut-être lire deux poèmes et puis après laisser la place à Francis.
Ce que vous voulez. Allez-y.
J'en lirai un en catalan. Et en catalan et en français, puis peut-être un en français. Parce que je pense qu'on n'a pas trop de temps.
Allez-y.
Al sabre i al crisantem. Un bes amor meu. No pot ser aquesta bèstia grotesca, sinó, des de l'infància, un amic que ha volgut créixer amb tu. Em van ensenyar els meus pares a conèixer i mimar tots els buits i els forats que em revelen i em vesteixen. Que no ho veus, amor meu? El teu puny és el meu cor, el teu cor, i estimar sempre el millor mestre per saber morir. Un baiser, mon amour, n'est pas un animal grotesque, mais un ami qui te vient de l'enfance. Moi, mes parents m'ont appris à chérir les petites trous et les vides qui me révèle et m'habille. Alors ne vois-tu pas, mon amour, que ton poing est aussi mon cœur, ton cœur, et qu'aimer m'a toujours appris à mourir. Oh, n'est-ce pas beau ?
C'est magnifique.
On a donc eu la version catalane et française.
C'est vrai.
Alors, un texte qui m'a été en fait inspiré par Michel Écart,
oui,
lors d'une rencontre, d'une visite qu'il avait rendue à mon éditeur, un de mes éditeurs, Robert Lebet, et il avait parlé justement de la situation, et il traduisait les poèmes de Yehudi Menachem à l'époque, et il m'avait raconté cette histoire, et moi j'avais transposé évidemment ce qui se passait dans mon pays, en Catalogne, et ce qui se passe dans mon pays, en Catalogne. Donc voilà, je vais le lire en français, dans la maison d'Abel. Dans la maison d'Abel, je vis dans un pays où l'on rétracte, ajoute. Si l'on glisse, si l'on entasse, on se retire, on s'édifie. C'est aussi meuble et friable, la voix qui modèle, me dilate. Ne savais-tu pas que le souffle, qu'il soit tout, raclement, élan ou tempête, nous écarie, nous sculpte. Je voyage encore, je désosse les lettres et découle les syllabes. Parole, désert ou peste, eau, désir. Petit paquet bleu dangereux sous mon siège dans le bus du matin. Je suis parfois mon propre frère muet qui voudrait bien me tuer. Mais je choisis maintenant de me jeter du haut de ta tour. Tout cela, c'est encore des mots, de la chair, des os. Tu vois, je me retire, je m'édifie. Ma petite maison est une boîte où je prie et me tais.
Bravo. Merci beaucoup, Felipe.
Merci à
vous. Costa Guiodi, je sais que vous avez un engagement en très peu de temps, vous allez nous quitter. Merci. On vous remercie en tous les cas, et on voit bien que le multiculturalisme donne une sensibilité qui permet de comprendre toutes les situations. Je crois que c'est quelque chose qui se confirme.
Deuxième exemple, en effet, en quelques minutes. On va passer à notre troisième et dernière invitée, Francis Combes. J'ai déjà envie de vous demander, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival Voix Vive ?
Non, en fait, je crois que je n'en ai pas manqué beaucoup, parce que cette année, je suis invité comme poète, et j'en suis heureux, évidemment. Il m'est arrivé d'être ici aussi comme éditeur, ouais, responsable des éditions Temps des Cerises. Donc, je peux dire que je suis un fidèle de Voix Vive.
Très bien. Mais là, en résidence comme poète.
Ouais.
Donc, c'est un pas de plus. Un pas de plus.
C'est la troisième fois, oui. Ouais.
Écoutez, pour parler un petit peu de votre travail, je vous propose qu'on vous écoute, tout simplement, pour une première lecture.
Je voudrais lire un poème pour notre amie, la poète d'Israël, qui a été empêchée d'être parmi nous. Il se trouve qu'en 2003, j'avais été invité par les poètes palestiniens à faire une tournée de lecture dans les territoires palestiniens, dans les territoires occupés. J'ai écrit un certain nombre de poèmes, je voudrais juste en lire un. Jérusalem Hôtel, pour Ibtihaj. Venez. Arrêtez-vous un instant, asseyez-vous ici, sur la terrasse, à l'ombre de la treille de vigne vierge, près de la jarre et du citronnier. Prêtez un instant l'oreille au chuchoteux discret de la petite cascade qui coule au pied de l'arbre. Un moineau sautille entre les chaises, des habitués vont et viennent. Deux jeunes filles, dans la douceur du soir, fument le narguilé. Ici, pour un instant, on pourrait croire que le monde autour de nous est autre chose qu'une carte de géographie barbelée de cicatrices, déchirée en petits morceaux et brûlée. Ici, on pourrait croire que nous sommes sur Terre, que nous sommes des êtres humains et que nous vivons en paix.
Merci beaucoup. It was, alors, c'était un poème qu'il a lu. It was dedicated for you, Hava. And je voudrais vous poser une petite question, moi, Francis Combes. Vous avez voulu finalement faire bien connaître la littérature à travers la revue Europe, à travers justement votre direction littéraire chez Messidor, etc. Vous avez aussi essayé l'opéra, la musique. Alors vous aussi, c'est aller vers l'autre avec toutes les formes de création possibles.
Je crois que quand on aime la poésie, qu'on se sent porté par la poésie, on a envie de la faire partager. Vous savez, c'est peut-être un défaut, je le reconnais. Je reconnais même que ça peut être fatigant pour ceux qui m'entourent, mais j'aime faire partager mes plaisirs. Et je ne conçois l'activité de poète que comme une sorte de propagation de la joie de la poésie.
Peu importe le support, en fait.
La poésie est une sorte de propagande pour le printemps, pour moi.
Vous savez, c'est joli, ça. Voilà. On va garder la... Bravo. On va garder la définition, hein, de propagande pour le printemps. Magnifique. Alors, vous avez aussi...
Même en hiver.
Vous vous êtes essayé en prose également.
J'ai écrit trois romans et des essais, dont un sur la poétique du bonheur. La poétique du bonheur.
Alors, un livre dans une édition dont j'adore le nom, hein, Le Temps des Cerises, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et le français en liberté.
Oui, parce pourquoi qu'il se trouve qu'avec Patricia, avec qui je vis depuis 46 ans, qui est journaliste, nous tenons toutes les semaines dans le quotidien L'Humanité une rubrique sur la langue française. Le français est une langue à laquelle nous sommes évidemment attachés, mais qui est entrée dans une période de turbulence, entre l'influence massive de l'anglais, l'oubli d'un certain nombre de mots, l'usage qui est fait aussi d'un certain nombre de mots de la nouvelle langue, disons. Il nous semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce que devient la langue française.
Vous parlez de Franglish, d'ailleurs.
Du Franglish, oui. Alors, ça, c'est un aspect. On dit ce qui nous énerve, des fois, ce qui nous amuse, ce qui nous paraît ridicule, mais aussi les belles trouvailles de la langue, les inventions, parce que la langue est un organisme vivant. Voilà. Et nous sommes attachés à la langue française, mais pas comme des conservateurs. On n'est pas là comme pour tenir un pot de fleurs cassé. Hein, c'est au contraire une plante bien vivace et bien vivante.
Ça n'est pas un dogme, c'est quelque chose qui vit avec nous.
Ce n'est pas une plante de musée, ce n'est pas une fleur de musée, la langue française.
Ben merci pour la langue française, voilà. Hein, c'est de bon augure de toutes les façons. Et donc, est-ce que vous pouvez nous lire un poème?
Oui, alors je pensais, comme j'ai lu un poème sur... Israël et la Palestine. J'ai écrit beaucoup de poèmes reportages, en fait. Certains ont été publiés, d'autres le seront. Et tiré d'un livre qui s'intitule « Poèmes du Nouveau Monde », deux poèmes sur les États-Unis, sur San Francisco. Si vous m'autorisez. Une chose vue dans la rue à San Francisco, mais qui explique, qui pour moi m'a fait comprendre quelque chose, et y compris sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Je vous dis le titre. Sur le patriotisme de ceux qui n'ont rien. La mendiante croisée dans Sutter Street, très pressée, qui parle toute seule et pousse devant elle un caddie dans lequel sont assis deux gros chats, porte sur sa casquette de jean et dans son dos la bannière étoilée. Il faut dire qu'à elle qui n'a rien, l'Amérique a tout donné. Le caddie, les chats et même la liberté.
Magnifique, bras.
Et puis, un deuxième qui est plus dans une veine amoureuse, parce que ma poésie, depuis toujours, je crois, et j'espère que ça continuera comme ça, mélange allègrement l'amour et la politique. Hein ? Voilà. Donc, un poème dans une autre rue de San Francisco, qui s'intitule « Ma capucine ». Comme nous remontions à Hyde Street, tu as piqué une fleur de capucine qui débordait d'un balcon, et tu l'as mangée. Puis, je t'ai embrassé, et j'ai goûté sur ta langue, ma capucine, le goût poivré de la capucine. Ce petit poème, ma chérie, ne concerne que nous deux. C'est une affaire strictement privée. Mais, si tu en es d'accord, nous pourrions l'offrir à tous ceux qui aiment les capucines, et même à ceux qui aiment s'embrasser.
Alors, ce sont effectivement, c'est une fenêtre sur des personnages et des sentiments, comment on se place vis-à-vis de l'autre. Et un de vos poèmes, Je et l'autre.
Ah, je ne l'ai pas
ici.
Que
j'aime beaucoup.
Vous l'avez, vous ?
Oui, oui, moi je
l'ai. Ah ben c'est formidable. C'est un poème que j'ai écrit sur une nappe de restaurant un jour où nous étions en discussion avec des copains. Si je me souviens bien, c'était avec Jean-Pierre Siméon du Printemps des Poètes. Oui. On avait bu un coup, ça nous arrive, et parlé beaucoup, ce qui nous arrive aussi. Et ce poème a été inscrit sur les marches du métro à Paris, à la station Saint-Ambroise.
C'était une initiative de faire découvrir la poésie dans le métro, précisément.
Oui, alors, il y a eu deux initiatives différentes. Pendant 15 ans, je me suis occupé avec le poète Gérard Cartier d'afficher des poèmes dans le métro parisien.
Voilà.
Et nous affichions des poèmes de poètes étrangers, de poètes du passé, de poètes du présent, de poètes français, etc. Évidemment, jamais nous n'avons affiché nos propres poèmes dans le métro. Mais là, c'est une autre initiative qui avait été prise par le Printemps des Poètes. Et les poèmes avaient été inscrit presque comme une mosaïque sur les marges du métro, et c'est resté longtemps.
C'est une belle idée. Alors moi j'étais dans le même restaurant, j'ai récupéré la nappe.
Voilà, formidable. Ben, je vous remercie. Et en fait c'est un poème, je ne vais pas faire de commentaires savants, c'est juste parce que vous connaissez cette célèbre formule de Rimbaud, « Je est un autre ». Superbe formule par laquelle s'est inaugurée toute une histoire de la poésie française et de sa modernité. L'exploration des cavernes, pour ne pas dire des gouffres, de l'inconscient individuel. Et moi, je tiens qu'il y a une nouvelle modernité inventée, sans nier ce travail nécessaire d'exploration de l'inconscient personnel, pour explorer cette autre réalité qui est tout aussi vraie, mais souvent méconnue, qu'en vérité, nous ne sommes pas si différents que ça les uns des autres.
Heureusement.
Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui permet... La poésie, c'est ce qui permet son partage. Alors je dis, trêve de discours, je lis ce petit poème. Je et l'autre. L'autre est un je, et il est nous. Il est elle, et elle est aussi il. Et nous sommes tous les autres, tous uniques, et tous si peu différents. Beaucoup de je et si peu de nous.
Magnifique. Donc là, c'est à relire en se brossant les dents quand on ne sait pas faire de lien avec celui qui est différent.
Voilà.
Ok, merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que vous trouvez que vous parliez des nouvelles formes de poésie, le rap ?
Je trouve que depuis plusieurs années maintenant, il y a un phénomène tout à fait intéressant. C'est que on avait pu croire la poésie populaire morte. La poésie française, qui est une poésie qui a une histoire millénaire, pour l'essentiel, est une poésie assez savante, très savante même. Hein. Et la poésie populaire, qui a été très vivace au Moyen-Âge, à la Renaissance, à travers la chanson, au XIXe siècle, par exemple, avec les poètes ouvriers comme Jean-Baptiste Clément, Eugène Potier, Gaston Coutet, Jules Jouy et bien d'autres, lors des dernières décennies, depuis la guerre, disons, semblait avoir presque disparu parce que la culture populaire avait été en quelque sorte confisquée par le showbiz.
Ouais.
Et la poésie était réservée pour beaucoup à la littérature avec un grand L. Or, on voit ressurgir des formes de prise de parole poétique à travers le slam, le rap. Parfois c'est bon, parfois c'est moins bon poétiquement, mais c'est pas le plus important. C'est la démarche.
Ouais.
Hein. Et puis quand on commence à prendre la parole, ben on peut toujours se mettre à lire, on peut toujours enrichir son vocabulaire poétique, enrichir ses images, etc. Donc je trouve que c'est très prometteur, en effet.
Hein. Ça fait découvrir qu'on peut, que c'est accessible.
Oui.
Et puis pour les gens qui écoutent, ça leur fait découvrir aussi que c'est accessible.
Voilà.
Ça n'est pas un texte élitiste.
La poésie n'est pas la propriété privée des poètes. Elle appartient à tous, mais je crois que si l'on veut se perfectionner, ben il faut lire, il faut découvrir les poètes. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, en vérité, je le dis aussi parce que je suis aussi éditeur, il y en a peu qui lisent. Hein. Donc il faudrait encourager à la lecture, hein, et à ouvrir l'horizon, parce que finalement, à quoi sert la poésie ? Pour moi, la poésie sert essentiellement à ouvrir notre horizon, élargir l'horizon.
par l'imaginaire et par l'imaginaire, la perception.
À la fois par l'imaginaire et par le réel. C'est-à-dire que le poème est ce curieux objet qui contient le monde et qui l'ouvre, ouais. Si vous me permettez cette formule. C'est Pablo Neruda qui disait « Un poète qui ne serait pas réaliste serait un pauvre poète. Un poète qui ne serait que réaliste, je le plains. Ouais. » Il faut ce mélange détonnant de réalisme maximum et de rêve, d'imagination, d'utopie même, de fantaisie.
Bien sûr.
De liberté sans laquelle, et je dirais même de ce petit grain de folie sans laquelle
oser.
La poésie n'a guère de chance de s'envoler.
Oser autre chose. Et quels sont vos projets justement là, dans les, au niveau éditorial, au niveau écriture? Est-ce que vous avez des projets précis, un thème qui vous tient à cœur?
Je viens de publier un livre de poèmes qui s'intitule « Lettres d'amour post-restante ouais. » aux éditions de La Passe du Vent. Et puis, cette semaine doit paraître, aux éditions du Temps des Cerises, la réédition d'un de mes anciens livres qui date de 1985, qui m'avait valu le prix Hertel de poésie, qui s'intitule « Cévennes où le ciel n'est pas à vendre ». Parce qu'il se trouve que je suis né en Lozère, j'ai ouais. passé mon enfance dans les Cévennes, à Saint-Enimi, Vialas, etc. Et la jeune poète occitane Aurélia Lassac s'est mise en tête de traduire mon poème en occitan.
C'est joli.
Donc nous faisons une édition bilingue, occitan et français, qui paraît cette semaine. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour le présenter dans la région, dans les mois qui viennent.
Encore un pont qui est assuré par justement la maîtrise des langues et l'envie de communiquer. Voilà.
Bien Perla, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons passé donc ici 50 minutes à 7 dans les hauts du jardin du Château d'Eau, dans le parc Simone Veil, à l'occasion du 23e festival de poésie Voix Vive. Merci Havana Pinas-Cohen.
Thank you very much.
Merci beaucoup.
Merci également à Patrick Vendrin de nous avoir lu ses poèmes.
Merci.
Et merci à vous Francis Combe pour votre compagnie.
Merci au public qui est justement venu nous accompagner pour cette émission en public.
Et on remercie également Philippe Costaglioli qui a dû partir parce qu'il avait une lecture donc à 16h. Je rappelle également que cette émission était le fruit d'une coproduction entre les radios associatives Radio Aviva, FM+, Languedoc, Radio Grille Ouverte, RPH et RPH Sud. Longue vie à Voix Vive et on se retrouve très bientôt sur les ondes poétiques.
Ondes poétiques.
Au festival Voix Vive à 7h.